sirènes gueulent et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tôle. Y'a du partout dans la tôle. Y'a du partout dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tôle. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'arrive les lardus avec des mitraillettes et y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le vendredi 10 octobre 2025 et vous êtes à l'écoute de l'émission L'Envolée sur Radio Fréquence Paris Pluriel, FPP, en région parisienne sur la fréquence 106.3 FM. Et je rappelle que cette émission est rediffusée sur une quinzaine d'autres fréquences en France au cours de la semaine suivante. Donc on remercie comme toujours les radios locales associatives qui nous retransmettent afin d'être entendues dans un maximum d'endroits et notamment dans un maximum de prisons en France. L'Envolée, c'est quoi? Je rappelle, L'Envolée, c'est un journal et une émission de radio qui donne en priorité la parole aux premiers concernés, aux prisonniers, prisonnières et à leurs proches, dans le but de contribuer à une critique de la prison et du droit et de la justice. Donc on relaye principalement des paroles de prisonniers et prisonnières qui dénoncent la prison. Voilà, l'émission L'Envolée, effectivement, n'existe que parce que vous contribuez et vous nous écrivez et vous critiquez ce qu'on a dit, vous y répondez, vous complétez, etc. Donc n'hésitez pas à nous écrire. L'adresse par la poste, c'est l'envolée-fpp. 1 rue de la Solidarité, 75 019, Paris. Vous pouvez aussi nous contacter sur le téléphone, donc laisser un message sur le répondeur, envoyer des textos et peut-être tenter sur Signal. Le numéro, c'est 07 53 10 31 95. Vous pouvez consulter notre site internet où on met toutes nos émissions, nos journaux et d'autres publications. C'est l'envolée tout attaché sans accent.net. Vous pouvez aussi nous envoyer un email contact@l'envolée-tout-attaché-sans-accent.net. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, l'envolée journal, tout simplement. Et je pense que pour le Facebook et le compte X, il faut qu'on arrête de les annoncer parce que je crois que c'est complètement dépassé et qu'on n'y publie plus rien. Voilà, l'émission d'aujourd'hui, donc c'est l'émission du 10 octobre, comme je l'ai déjà dit, et c'est une émission hors les murs, c'est-à-dire que on relaye un peu l'équipe de Paris qui manque parfois d'énergie et de disponibilité pour faire toutes les émissions, donc... on est désolé, c'est un peu moins fun et convivial. C'est une émission enregistrée en direct de mon salon en grande partie. Donc dans cette émission, de quoi on va parler? On va d'abord présenter le dernier numéro du journal L'Envolée, c'est le numéro 63. On va vous présenter un peu ce qu'il y a dedans. Il est enfin sorti, il a dû arriver dans les détentions. Donc on va vous le présenter un peu. Ensuite, on vous passera une émission de Mayday, qui est une émission qui passe sur Radio Canu à Lyon, et qui est une émission qui parle d'un procès aux assises et de comment les premiers concernés, enfin les, L'accusé et surtout sa sœur, une proche, l'ont vécu et qui donc décrypte le fonctionnement de la justice aux assises et un peu le sens de cette peine du point de vue de ceux qu'on entend le moins souvent, c'est-à-dire ceux qui subissent cette peine, donc les prisonniers et leurs proches. Donc voilà, on va commencer par vous présenter le dernier numéro du journal L'Envolé. C'est un numéro qu'on a préparé en août 2025 et c'est le numéro 63. Donc vous pouvez le retrouver dans une multiplicité de points de vente à travers la France. La liste des points de vente est disponible sur le site internet de L'Envolé dans la rubrique « Où trouver le journal ?». Ensuite, vous pouvez vous abonner à ce journal pour 15 euros. C'est un abonnement de soutien, 15 euros par an, en nous écrivant. Donc je vous redonne l'adresse, l'envolé-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Et surtout, L'Envolé est un journal qui est gratuit pour les prisonniers et prisonnières. Donc n'hésitez pas à nous demander à être abonné et c'est gratuit. On se fera un plaisir de l'envoyer et d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi nous contacter par le mail, je rappelle, contact@l'envolé.net. Dans ce journal, qu'est-ce qu'il y a dans le numéro 63 de L'Envolé ? Dans ce journal, il y a des lettres. C'est des lettres qu'on a déjà lues à l'antenne de la radio. Ça, comme on les a déjà lues à l'antenne, je ne vais pas revenir dessus. Et puis, on a écrit plusieurs textes qu'on a envie de partager aussi avec vous à l'antenne, en se disant que peut-être déjà pour ceux qui ne peuvent pas lire le journal, vous pourrez peut-être écouter ces lectures. Donc, c'est pas toujours très simple d'écouter des textes lus qui parfois sont un peu longs, avec parfois des phrases un peu longues aussi. Mais ça nous semblait important de vous les mettre en écoute aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà je remercie les copines qui nous ont fait des lectures. Donc je vais vous enchaîner les lectures de l'édito de ce journal numéro 63, édito qui s'appelle « Le principe du Cerflex ». Ensuite, on vous lira un article qu'on a écrit sur la vague d'actions qui ont eu lieu en avril 2025 suite à l'appel DDPF, si vous vous souvenez. DDPF pour défense des droits des prisonniers français. Ensuite, on va vous rediffuser l'appel en lui-même, une lecture de l'appel de DDPF, parce que cet appel il a été directement censuré. Peut-être pas grand monde a pu le lire en tant que tel, et nous, on trouve ça intéressant, donc. Ensuite, alors ce sera la lecture d'un long texte, peut-être un petit peu pénible à lire, mais qui nous tient beaucoup à cœur, qui s'appelle « Narcotrafic, narcoprison, narco-bullshit, mais vraie torture », qui revient sur l'actualité vraiment sinistre des prisons en France et de la justice qui se durcit de plus en plus. Voilà, donc c'est parti pour une trentaine de minutes de lecture. Bonne écoute.
Le principe du Cerflex. Lorsque des policiers masqués et armés clamaient le slogan du syndicat d'extrême droite Alliance « Le problème de la police, c'est la justice » devant l'Assemblée nationale en mai 2021, leur ministre de tutelle était à leur côté. Problème réglé, maintenant qu'il est garde des Sceaux, il continue à avancer à marche forcée vers toujours plus de brutalisation de la justice. Après avoir bien dragué les syndicats de keuf, Darmanin a remis le couvert direct avec les syndicats de Maton en lançant une grande croisade anti-tolar. Dans cette séquence, boostée par l'instrumentalisation de l'évasion sanglante de Mohamed Amra en mai 2024, il ne se passe pas deux jours sans que tombe une nouvelle annonce de mauvais augure pour les enfermés. Suppression des activités, commande de 3000 nouvelles places de prison dans des préfabriqués, menace de faire payer des frais d'incarcération aux prisonniers et prisonnières, et surtout, création de super narco-prisons à Vendin-le-Vieil, à Condé-sur-Sarthe et pourquoi pas jusqu'en Guyane, en attendant de remettre du bon sens partout, avec une réforme de la justice. Bref, il fait scrupuleusement tous les fonds de tiroir de l'arsenal répressif. Ça passe ou ça casse, mais c'est toujours tout bénef pour la campagne présidentielle qu'il a déjà commencé à mener sur le dos des prisonniers et des prisonnières. La création des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, QLCO, est une aubaine qui permet à Gérald d'occuper le devant de la scène dans la guerre contre les narcotrafiquants, dont il a largement contribué à consolider la figure menaçante. Un écran de fumée pratique pour légitimer une offensive bien plus large. Le narcotrafic n'a aucune existence juridique. Dans la loi, il est seulement question de criminalité organisée. Et pour tomber dans cette catégorie, il suffit de se faire coller une association de malfaiteurs ou même d'en être simplement suspecté. C'est dire si cette formule recouvre un vaste éventail de crimes et de délits. Les QLCO viennent s'ajouter à toute une gamme d'établissements et de régimes de détention. c'est le dernier maillon de la chaîne de la pénalisation, pour le moment. Entre placement préventif à l'isolement et opacité des critères de sélection, ça permet de faire peur à tout le monde. C'est un niveau de déshumanisation inédit et sur lequel il sera difficile de revenir, selon le principe du Cerflex. Même si les concurrents de Darmanin réussissent à lui balancer une peau de banane dans la dernière ligne droite, le mal sera fait. D'autant que, selon les dires d'un conseiller du ministère, on a l'opinion publique avec nous. De mémoire d'envolée, on n'avait jamais vu un tel engouement médiatique pour la com d'un ministre des tribunaux et des prisons. Le thème du remplissage de Vendin donne lieu à un véritable festival. Darmanin communique à chaque transfert, et la presse régionale jacasse chaque fois qu'un gars de chez eux est transféré. Chacun se passionne pour le mercato des narcos, et le JDD se félicite que 7 profils à très haut risque aient été transférés pour isoler les têtes pensantes du narco-banditisme français. De son côté, le Figaro explique que le pari est de mettre totalement sous cloche ces détenus pour les empêcher de poursuivre leurs juteuses affaires hors les murs et de commanditer crimes et exactions. La prétendue fuite sur CNews et dans le JDD des fiches pénales des détenus parmi les plus dangereux du pays ne choque personne. Elle donne lieu à une plongée inédite dans les arcanes du crime organisé. Et pour qu'on comprenne bien que c'est à tous, toutes les prisonniers et prisonnières qu'il veut du mal, le ministre a même choisi de reporter d'une semaine l'inauguration de l'extension d'un établissement nîmois après avoir appris l'existence d'une table de massage et exigé qu'elle soit retirée de la zone de détention et mise à disposition des personnels pénitentiaires. La vraie nouveauté, c'est que Darmanin assume clairement qu'il faut plus de place en prison, mais pas pour que les tolards soient moins serrés, et que l'échelle des peines, devenue échelle des tortures, en vient carrément à constituer un argument électoral. Une offensive de cette ampleur contre 85 000 prisonniers et prisonnières ne pouvait évidemment pas rester sans réponse. Il y a eu la vague d'action de DDPF, Défense des droits des prisonniers français. La déclaration d'intention décrit une situation bien réelle, à savoir que c'est à tous les prisonniers et prisonnières que la guerre est déclarée. Derrière les opérations spectaculaires et leur exploitation médiatique, il y a le quotidien et les résistances de tous les jours, comme le blocage du QI de Fresnes en mai dernier, qui continue à éclater sporadiquement ici et là, tandis que l'étau se resserre. Et puis, dès leur transfert, une trentaine de personnes ont déposé des recours auprès du tribunal administratif contre leur placement au QLCO de Vendin et contre les conditions de détention. À l'heure où nous bouclons ce numéro, soit à peine un mois après leur arrivée à Vendin, des prisonniers se sont coordonnés pour inonder leurs cellules dans 3 coursives en même temps. Le lendemain, ils ont recommencé et tambouriné sur les portes. Certains ont aussi annoncé leur intention de se mettre en grève de la faim illimitée à partir du 1er septembre. On dirait bien que c'est pas fini.
Dur d'entendre les prisonniers fâchés à propos de la vague d'action d'avril 2025. Mais alors c'est quoi, Défense des droits des prisonniers français, DDPF ? En moins de 2 semaines, du 13 au 22 avril, l'École nationale de l'administration pénitentiaire, ENAP, et plusieurs prisons ont été taguées DDPF. Des voitures de matons incendiées, les domiciles de certains d'entre eux ont été pris pour cible. Ces actions étaient accompagnées d'un texte publié sur un canal Telegram qui s'en prend explicitement à l'offensive du ministère des tribunaux et des prisons contre les prisonnières. Récente suppression d'activité, vote imminente de la loi contre le narcotrafic, annonce de l'ouverture prochaine des quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Les premières réactions de l'intérieur des prisons sont enthousiastes, comme si le silence qui les entoure était enfin brisé. On pense notamment aux 2 prisonniers de la maison d'arrêt du Mans qui ont tendu entre les fenêtres de leur cellule une banderole sur laquelle était écrit « DDPF nique l'administration pénitentiaire ». Ils ont été condamnés à 6 mois supplémentaires. On pouvait lire sur le fil Telegram « Contactez-nous par message privé et rejoignez le mouvement DDPF ». L'État a répondu immédiatement en saisissant le parquet national antiterroriste, PNAT, histoire de donner un max de moyens aux enquêteurs pour serrer du monde au plus vite, mais aussi d'effrayer quiconque serait tenté de s'inspirer de ces actions ou même simplement de les comprendre et de les relayer. Dans la foulée, une trentaine de personnes ont été interpellées et 21 d'entre elles mises en examen, dont 7 qui étaient déjà en prison. Largement relayées par les médias, le ministère s'est appuyé sur le profil de certains d'entre eux pour imposer le récit qui lui convenait le mieux, celui d'une attaque coordonnée par une mafia du trafic de stupes dirigée par des délinquants seulement motivés par leurs intérêts personnels. Ça tombait à pic pour mettre en scène le face-à-face entre les méchants narcos et Gérald, l'infatigable défenseur de la société et de l'ordre. Le décor une fois posé, le ministère n'avait plus qu'à normaliser la procédure en dessaisissant le PNAT au profit de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, Junalco. De leur côté, les matons ont profité pour y aller de leur petit blocage. Plus de parloirs, ni de cantines, et suspension des mouvements dans la détention. Un correspondant de l'intérieur nous a écrit de Liancourt. Avec ce qui se passe dehors avec des DPF, les matons restent solidaires. Le lundi 5 mai, il y a eu une grève en solidarité avec leurs collègues qui se sont fait brûler la porte d'entrée de leur appartement. Il y a les cours et les ateliers qui ont été bloqués. Ils ont très rapidement obtenu que la loi contre le narcotrafic comporte leur anonymisation dans les procédures tant pénales que disciplinaires, une vieille revendication de leur syndicat. Alors forcément, ça nous a donné envie de comprendre un peu mieux ce qu'il y avait derrière tout ça. Est-ce un mouvement social contre la prison? De quelle ampleur? Avec quel lien à l'intérieur? Peut-il construire un rapport de force dans la durée? Entre qui et qui? A-t-on affaire à une mafia tentaculaire qui cherche à intimider la pénitentiaire, comme le prétend le ministère? Difficile de démêler tout ça de là où nous sommes. Le texte initial du fil télégramme reste une analyse pertinente de la guerre que Darmanin mène contre les prisonniers du point de vue de l'intérieur. C'est pour ça qu'on le publie ici.
La guerre, c'est vous, Darmanin, qui l'avez déclenchée. Communiqué de défense des droits des prisonniers français. Bienvenue sur le canal officiel des droits des prisonniers français. Ce canal est un mouvement dédié à dénoncer les atteintes à nos droits fondamentaux auxquels le ministre Gérald Darmanin compte porter atteinte. Tous les détenus de France doivent se mobiliser et se réveiller. L'heure est grave. Nous entrons dans une ère dangereuse et inquiétante pour l'avenir de la population carcérale. Ce canal nous permettra de recueillir les témoignages de vous, les détenus de France. Nous devons être unis face à cette situation. À l'heure d'aujourd'hui, si en 2025 nous pouvons regarder la télévision, fumer des cigarettes, manger en cellule en toute tranquillité, c'est uniquement parce que nos anciens se sont battus pour ces droits fondamentaux. Ces mêmes droits qui auraient pu être un automatisme ont nécessité un combat pour faire comprendre qu'avant d'être des prisonniers, nous sommes avant tout des humains. Pareillement, concernant les heures de promenade, il y a encore 4 ans, nous avions droit à 2h30 le matin et 2h30 l'après-midi. Aujourd'hui, nous sommes réduits à une promenade l'après-midi, un jour sur deux, et seulement pour une heure. Les coûts des cabines téléphoniques sont faramineux et extrêmement chers. Certains détenus ne peuvent pas se le permettre, que ce soit les personnes interdites de contacter leurs proches à l'extérieur ou celles avec très peu de moyens, vu le prix qui s'élève à pratiquement 1 euro la minute, ce qui est très cher pour des détenus, quelle que soit leur classe sociale. La suppression des activités diverses est tout aussi impactante pour les détenus. Pour les personnes en mandat de dépôt, ça permettait de s'aérer l'esprit et par la même occasion de récupérer des RPS, remises de peine. Mais encore une fois, Monsieur Gérald Darmanin vient dérégler le processus de réinsertion des détenus. Les surveillants qui nous frappent, qui violent certains détenus, qui exercent des pressions physiques et psychologiques. La plupart des suicides en prison sont dus à l'agressivité de l'administration pénitentiaire et à sa déontologie. Combien sont morts après avoir fait plusieurs mises en demeure sans que la direction ne les prenne en compte? Combien sont frappés dans des salles isolées, hors de portée des caméras? Combien de fois l'abus de pouvoir a-t-il été utilisé pour cacher les circonstances de nombreuses violences sur les détenus? Cette publication, c'est pour remettre les choses au clair. Monsieur Darmanin pense à surfer sur la vague pour faire entendre ce qu'il a envie aux médias. Sachez que nous ne sommes pas des terroristes. Nous sommes là pour défendre les droits de l'homme à l'intérieur des prisons. Depuis quelques années, une majorité de surveillants humilie, insulte et violente les personnes détenues. Quand les détenus se plaignent en faisant un recours, ils finissent à l'opposé de la France, ou avec des fouilles humiliantes, répétées, ordonnées par la hiérarchie. Ils ne respectent en aucun cas la loi. Par contre, quand ça les arrange, ils l'appliquent fermement. Les surveillants ne font que se plaindre, alors que 80% du temps de leur travail, ils sont dans leur bureau à discuter. Et depuis l'affaire Amra, que la majorité des détenus n'ont pas cautionné, la mort de ses agents, pourquoi se servir d'Amra pour faire du mal aux 82 000 autres détenus? Ça n'a ni queue ni tête. La guerre, c'est vous, Darmanin, qui l'avez déclenchée. Nous, on veut juste que les droits de l'homme soient respectés. Monsieur Darmanin, pendant que vous pensez à votre présidentielle 2027. Post-scriptum. Monsieur Darmanin, c'était pour vous dire. Monsieur Retailleau est plus bon que vous. Vous n'allez même pas passer le premier tour à la présidentielle 2027.
Bon, alors effectivement, on aimerait bien que ce soit ni Darmanin ni Retailleau qui passe la présidentielle 2027. Donc, pour rappel, là, on vient de vous lire plusieurs textes qui ont été publiées dans le journal L'Envolée numéro 63, qui est sorti, qui a été fait en août. Le dernier texte là, qu'on vient de vous lire, c'est le communiqué qui avait été publié sur le canal Telegram DDPS, Défense des droits des prisonniers français. Et là, maintenant, on va vous lire un texte qu'on a écrit, qui a été écrit par L'Envolée, au sujet un peu de toute l'actualité carcérale, de l'actualité pénitentiaire un peu sordide, qui est aussi paru dans le numéro 63 de L'Envolée. Narcotrafic, narcoprison, narco-bullshit, mais vraie torture. La loi narcotrafic et les narcoprisons ultra-sécurisées ouvertes par Darmanin et sa clique font régulièrement la une et émerveillent plus d'un journaliste. Et oui, le ministre des tribunaux et des prisons drague passionnément l'extrême droite sur le dos des prisonniers et prisonnières, qui sont la cible des politiques démagogues sécuritaires les plus brutales. Fin juillet, à l'ouverture du premier de ces quartiers de lutte contre la criminalité organisée, QLCO, à Vendin-le-Vieil, les médias aux ordres n'ont évidemment donné la parole qu'aux gardiens, mi-héros, mi-martyrs, et à de malheureux riverains qui ont peur, mais de quoi ? Tandis que de trop rares voix s'élèvent pour critiquer ce régime d'isolement poussé à l'extrême, les prisonniers de Trois-Coursives ont décidé de se faire entendre en inondant leurs cellules dans la nuit du 27 août, un mois à peine après les premiers transferts. Loi narcotrafic, vers l'infini et au-delà. Adoptée le 29 avril 2025 dans un effrayant consensus contre les grands méchants narcos qui nous menacent tous, la loi narcotrafic permet en fait une extension tous azimuts des pouvoirs de la police, de la justice et de l'administration pénitentiaire, et plus largement la poursuite de l'enfermement massif de la population. Côté police et justice, la loi crée un parquet national anticriminalité organisé, PNACO, inspiré du parquet national antiterroriste, pour permettre la multiplication et la centralisation des moyens d'enquête. Elle étend les possibilités de renseignement et de surveillance, tout en restreignant les droits de la défense par la création d'un procès-verbal distinct, version politiquement correcte du dossier coffre, ce qui évite au CUF de s'expliquer sur certaines techniques d'enquête. Le texte allonge les durées légales de détention provisoire et complique et ralentit les procédures de demande de mise en liberté pendant l'instruction. Les DML. Ils visent particulièrement la Guyane et les Antilles, présentées comme les portes d'entrée du trafic, en criminalisant encore plus les « mules », entre guillemets, garde à vue prolongée jusqu'à 120 heures et interdiction de paraître dans les ports et les aéroports, sous peine de 2 ans de placard supplémentaire. Côté pénitentiaire, la loi satisfait les revendications des matons, en limitant les extractions par la généralisation de la visioconférence, et tant pis si ça dégrade encore plus les possibilités de se défendre face aux juges, ou même de se soigner. Elle autorise la vidéosurveillance des prisons par des drones qui, en cas d'incident, peuvent désormais filmer l'intérieur des cellules. Les images peuvent être directement transmises au proc. Enfin, elle renforce la répression de toute intrusion dans le domaine pénitentiaire, histoire d'empêcher notamment les familles de se rassembler devant les tôles. Torture et déshumanisation. Surtout, la loi fixe les conditions d'enfermement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, QLCO, qui s'applique désormais à Vendin-le-Vieil et bientôt à Condé-sur-Sarthe. Surveillance permanente, privation de presque tout contact humain, parloir hygiaphone, appels téléphoniques limités à 4 heures par semaine et écoutés en intégralité, quasiment pas de travail ni d'activité. 5 prisonniers par aile pour réduire la communication au minimum. Pas de prolongation de parloir, unité de vie familiale UVF interdite. Pour les proches, ce sont des centaines de kilomètres pour une brève visite derrière une vitre empêchant tout contact physique. L'installation des hygiaphones a d'ailleurs réduit le nombre de boxes de parloir de 22 à une dizaine. Vendin était déjà une tôle des plus sinistres. Les derniers travaux ont achevé de la rendre inhumaine. Un scanner corporel à ondes millimétriques a été mis en place. En promenade, pas un brin d'herbe, car, pour éviter les planques au sol, les rosiers ont tous été arrachés et les cours complètement bétonnés. Les cellules sont équipées de mobilier scellé au sol, de passe-menottes, d'un système d'ouverture des portes « anti-agression » entre guillemets, et de doubles caillebotis qui privent les prisonniers de lumière naturelle. Escortés par 3 matons en toute occasion, les prisonniers subissent plusieurs fouilles par jour, en plus des fouilles à nu systématiques après chaque contact avec l'extérieur, même derrière une vitre. Ça commence à déborder. Ce régime permet en fait de tenir toutes les détentions par la peur. L'arbitraire et le flou des critères d'admission font craindre à beaucoup de prisonniers d'y être envoyés. Certains ont été placés à l'isolement, parfois en attente d'un éventuel transfert. Depuis l'ouverture du QLCO de Vendin le 22 juillet, 88 prisonniers y ont été transférés. Et 5 autres vont être déportés d'outre-mer en septembre. Après la notification de leur affectation, tous ces prisonniers n'ont disposé que de 3 jours pour faire des recours non suspensifs. Une trentaine ont déjà contesté, en vain, leur placement ou leurs conditions de détention. Il n'y a eu qu'un seul juge pour considérer que se faire réveiller 4 fois par nuit par des matons qui allument la lumière en cellule, c'est abusif. Après, cette décision qui ne concernait qu'un seul prisonnier a été immédiatement suspendue par l'appel du parquet et le ministère de la Justice a souligné la possibilité de cantiner des masques de nuit et des bouchons d'oreilles. Surtout, en dehors de ces réveils nocturnes, ce jugement a validé la torture blanche à Vendin dans sa totalité. Face à l'échec des recours, les prisonniers ont commencé à s'organiser collectivement. La nuit du 27 août, ils ont inondé 3 coursifs depuis leur cellule, obligeant les matons à passer la raclette. Le syndicat UFAP s'est scandalisé dans un communiqué des « débordements d'individus qui se complaisent dans la provocation et la dégradation », entre guillemets, avançant l'hypothèse perspicace que l'inondation visait clairement à déranger les matons. Comme toujours, ceux qui ont été identifiés par l'administration vont sans doute prendre cher au prétoire. Le mouvement s'est poursuivi la nuit suivante dans un autre bâtiment. Inondation et bordel en tapant sur les portes. Plusieurs prisonniers ont prévenu la presse, par le biais de leurs avocats, de leur intention d'entamer une grève de la faim début septembre. 60 ans de lutte contre les QHS. L'administration sait très bien qu'en enfermant des gens dans des régimes aussi inhumains, elle s'expose à la protestation et à la mobilisation collective des prisonniers. D'ailleurs, une équipe régionale d'intervention et de sécurité, ERIS, normalement basée dans une caserne régionale pour intervenir dans plusieurs tôles, a élu domicile à Vendin jusqu'à la fin de l'année. Comme à l'ouverture de Condé en 2013, les prisonniers savent bien que c'est tout de suite qu'il faut riposter avant que le nouveau régime de détention ne s'installe dans la durée. Le sort qui est fait aux prisonniers du QLCO balaie presque tout ce que les prisonniers ont acquis par leur lutte. L'accès aux cabines téléphoniques et aux UVF, unités de vie familiale, la limitation des fouilles à nu, la suppression de l'hygiaphone. Ce sont les révoltes massives des prisonniers et prisonnières dans les années 60 et 1970 et une large médiatisation de leurs revendications soutenues par une partie de la gauche qui ont abouti en 1982 à la fermeture des quartiers de haute sécurité, QHS. Ils ont aussitôt été remplacés par les quartiers d'isolement, QI, puis au début des années 2010, par les quartiers Maison Centrale, QMC, et les centrales de Condé-sur-Sarthe et de Vendin-le-Vieil. Les prisonniers n'ont cessé de dénoncer ces lieux de torture blanche et l'extension de l'isolement sous toutes ses formes. En 2010, Christophe Kider décrivait le mode de fonctionnement des prisons modernes. Je le cite. « La chose la plus précieuse quand on est prisonnier, c'est le lien social. D'ailleurs, ce qui permet de tenir debout en prison, c'est de pouvoir échanger avec les autres. Un repas, une simple partie de cartes, une promenade. Or, ce nouveau type d'établissement est pensé pour détruire ce lien social. Pour mettre les détenus à l'épreuve par neuf, comme on dit. 9 mètres carrés et autant de mètres cubes d'angoisse et de désespoir dans ces prisons modernes. Les prisonniers ont lutté contre l'instauration du régime porte fermée, là où les cellules restaient jusque-là ouvertes une partie de la journée, et contre l'ouverture des premiers QMC, quartier Maison Centrale. Philippe Lallouel nous a écrit en 2014 depuis celui de Réau, je le cite. « C'est inhumain, t'es tout rétréci, compressé, tu sais même plus sourire ici, t'es vraiment mis hors société, séparé des êtres humains. Voilà, c'est à abolir, à brûler cet endroit. Construire ça, c'est tuer les hommes et les femmes à feu doux, rien d'autre. C'est magnifique, le monde est si immense, et ils t'enferment dans un petit coin pour des années. Quelle honte à eux, ces juges, présidents et tous ces fachos. Courage à ceux qui sont dans ces isolements, QHS tombeau secret. » À Condé et à Vendin, ces prisons conçues pour mater en peu de mois les prisonniers jugés récalcitrants, ce sont les luttes et la solidarité qui ont permis d'arracher quelques aménagements du régime de détention, qui s'est ensuite progressivement redurci à partir de 2018. Les QLCO de Darmanin n'en sont que la dernière version en date. Face au déploiement de tant de régimes mortifères, continuons à faire vivre la mémoire de ces luttes et de faire circuler la parole de ceux et de celles qui les dénoncent et qui résistent. pensée, force, courage et détermination aux prisonniers et prisonnières et à leurs proches qui subissent ces QHS modernes. Alors, on a rajouté deux petits encarts que je vais vous lire aussi. Le premier s'intitule « Toujours plus de peine, toujours plus longue ». Contrairement à ce qui s'est raconté dans les médias, la loi dite « narcotrafic » ne concerne pas que le trafic de stupes, loin s'en faut. La compétence du nouveau parquet s'exerce sur une liste de crimes et de délits longues comme le bras. Du meurtre au blanchiment, en passant par le proxénétisme, l'inusable association de malfaiteurs et, allez, tout ce qui est commis en bande organisée. D'ailleurs, l'objectif revendiqué des QLCO est de couper les liens avec les « entre guillemets » réseaux de criminalité et de délinquance organisés, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers. Pas besoin donc d'avoir été condamné dans une affaire de stupes pour être envoyé à Vendin. Il suffit d'être soupçonné d'entretenir des liens avec tel ou tel réseau. En plus, la loi va dans le sens de la multiplication et de l'allongement général des peines. Le nouveau délit de concours à une organisation criminelle, particulièrement flou, va permettre de condamner une personne quand aucune infraction particulière n'a pu être prouvée. Dans le même genre, publier une offre d'emploi liée au trafic sur un réseau social accessible aux mineurs vaut maintenant 7 ans de prison. Et puis il y a les peines sociales, celles qui touchent des personnes et des lieux que la préfecture estime liés au trafic. Expulsion du logement par le bailleur social, interdiction de paraître pendant un mois, parfois même dans son propre quartier, fermeture de commerce jusqu'à 6 mois. Et puisqu'il faut faire dans l'allongement des peines, la bonne vieille qualification fourre-tout d'association de malfaiteurs est encore alourdie. Dans certains cas, elle passe de 10 à 15 ans de prison, ce qui en fait un crime. Sinon, il reste toujours l'éternelle combine des circonstances aggravantes. Désormais, dans une affaire de stupes, il suffit d'avoir sollicité l'aide, directe ou indirecte, d'un mineur ou d'en avoir bénéficié pour que les peines encourues s'envolent. 10 ans de prison passent à 15, 20 à 30 et 30 à perpète. Et en bonus, un article supprime discrètement les possibilités de confusion de peine pour toutes sortes de crimes s'ils sont commis pendant la détention. Les années supplémentaires viennent alors s'ajouter à celles de la condamnation initiale, de quoi multiplier les peines par deux, tranquillement. Cela revient à appliquer la non-confusion de peine, qui s'applique déjà aux évasions, à tout ce qu'ils peuvent faire rentrer dans la criminalité organisée. Pratique pour étouffer encore un peu plus les contestations à l'intérieur. Il suffira de coller une association de malfaiteurs à tous les prisonniers qui tenteraient de s'organiser. Et un dernier encart dans cet article. Narcotrafic, narcoprison, narco-bullshit, mais vraie torture. Des usines à délation. La loi narcotrafic consolide et étend le statut de collaborateur de justice, en d'autres termes repenti ou poucave, réclamé à corps et à cri par les flics et les juges depuis un moment. Si ce statut permet d'échapper à tout ou partie de la peine, il peut être révoqué pendant 10 à 20 ans en cas de déposition mensongère ou en cas de nouvelle condamnation pour n'importe quel crime ou délit. Alors là, c'est direction la prison pour faire la nouvelle peine en plus de la première. La consolidation de ce statut prend tout son sens avec la création des QLCO sur le modèle du régime italien du 41 bis. Pour sortir de ce régime de détention extrêmement difficile, la seule solution, c'est de mettre quelqu'un à sa place. Or, il se trouve qu'une grande partie des prisonniers des QLCO y sont affectés à l'initiative du juge d'instruction pendant leur détention provisoire. Ça nous éclaire un peu sur une de leurs fonctions, arracher des aveux et faire tomber des gens. Alors voilà, dans cet article, on a parlé des narco-prisons, de la première qui a ouvert à Vendin-le-Vieil et des premières mobilisations qu'il y a eu à l'intérieur de la part des prisonniers qui étaient enfermés. Je rappelle que cet article est paru dans l'envolée de numéro 63, le journal L'Envolée numéro 63 d'août 2025. Et dès le 1er septembre, les prisonniers ont publié un communiqué expliquant qu'ils allaient se mettre en grève de la faim et expliquant que c'était pas forcément pour se plaindre de leurs propres conditions de détention, mais pour dénoncer ce que cette prison faisait subir à leurs familles et à leurs proches, qui sont des conditions particulièrement inhumaines de visite. Donc ce communiqué, on l'a lu à l'antenne dans une émission de début septembre que vous pouvez retrouver sur le site internet de L'Envolée. Et le communiqué lui-même, on l'a relayé sur le site internet de L'Envolée. Donc c'est l'envolée, tout attaché sans accent, .net. N'hésitez pas à aller regarder. Sachant que la grève de la faim a concerné des dizaines de prisonniers, puis selon les quelques rares infos qu'on a pu avoir, s'est étiolé petit à petit. On ne sait pas exactement ce que ça a donné, mais évidemment, on serait très très content et contente d'avoir des nouvelles directes de prisonniers ou de leurs proches au sujet de ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est fini pour les lectures et la présentation de ce journal. Si vous le voulez, vous pouvez nous contacter. Je rappellerai tous les contacts en fin d'émission. Et pour le moment, on va écouter un petit peu de musique. Et ensuite, pour finir l'émission, on va retransmettre une émission qui s'appelle Mayday, qui a été faite sur Radio Canu à Lyon. Et cette émission était sur, s'appelle Face à la peine. Et je vais vous la laisser l'écouter après la musique. C'est au sujet de quelqu'un qui a pris une très grosse peine de prison pour avoir tué accidentellement quelqu'un dans une rixe et sur comment la justice et la police ont traité ça. À savoir que faute de temps, on a en coupé quelques extraits et qui étaient surtout des extraits qui relatent un peu des études de sociologues et d'historiens sur les questions de violence des bandes, entre guillemets. Aussi parce que nous, à l'Envolée, on préfère toujours diffuser la parole des premiers concernés avant de diffuser une parole de chercheur qui peut être des fois un peu surplombante ou, coincer un peu les gens dans des déterminismes sociaux, c'est-à-dire les gens n'auraient pas le choix à cause de leur groupe social. Ils seraient condamnés à avoir tels agissements et à être dans la misère et tout. On préfère laisser parler les premiers concernés. Voilà, donc un peu de musique et l'émission Mayday face à la peine.
T'as l'air nul.
Sois pas aussi négatif, c'est juste le début. Ça va démarrer. Un peu de patience.
Donc là, t'es en train de... T'es en train d'enregistrer.
On n'entend rien du tout.
Mayday. Si, Mayday. Écoute bien.
Prêtez la plus grande attention.
Au cas où, s'il y a des gens de la radio ou d'autres gens qui écoutent la radio.
Mon message suivant.
Tu décrirais ça comment, toi, Mayday?
Une émission un peu kaléidoscopique.
À quoi ça sert? C'est quoi le but?
Ça résonne dans tous les sens. Avec des couleurs.
Un peu comme des fragments de lumière qui se télescopent, mais avec des sons.
Jusqu'à présent, c'était pas terrible, mais au moins ça se tenait. Maintenant, ça devient totalement confus.
Et quand finit le scénario?
Tous les mercredis. Tous les mercredis.
Mayday, c'est à 18h sur le 102.2 de Radio Canu.
Ah, je me suis emmêlée, j'ai fait trop de E. Je pense qu'il faut le refaire sans faire des E.
L'essentiel ici n'est pas seulement de conter une histoire.
Excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais de mon point de vue, cette scène n'a absolument aucun sens.
Mayday, saison 7. 7.
Il n'y a pas de raison qu'un jeune de cet âge ne puisse pas être sanctionné immédiatement après les faits. Un jeune de 17 ans qui vole le sac d'une personne âgée pourra passer en comparution immédiate et être jugé, alors que ça n'est pas possible aujourd'hui.
Et il faut accepter des choses encore plus dures que n'étaient les peines planchers, qui ne concernaient que les récidivistes. Je propose de supprimer le sursis, qu'il n'y ait plus d'avertissement, mais que tout de suite, dès la première condamnation, ce soit de la prison ferme. Et deuxièmement, qu'on puisse faire des peines minimales à partir du moment où le juge a reconnu la culpabilité de quelqu'un. C'est un changement radical, mais cette radicalité, on en a besoin.
C'est qui les barbares? Est-ce que quand vous dites barbares, vous pensez jeunes de banlieue?
La barbarie, pour moi, c'est quand tout devient prétexte à une extrême violence, quand tout devient prétexte à la destruction. Donc les barbares, ça peut être n'importe qui, mais on voit bien que là, on a affaire à des gens qui ne sont plus civilisés, qui ont la haine anti-flic, qui vont piller des magasins, qui prennent un plaisir à piller, à voler, à détruire.
La logique, vous l'aurez compris, elle est claire, aller plus vite et plus fort pour mettre fin au sentiment d'impunité qui peut exister chez nos jeunes et, je le dis, dans l'ensemble de la société.
La surenchère des discours sécuritaires tient semaine après semaine le haut de l'affiche. Il faudrait punir toujours plus fermement ceux que l'on assigne comme racailles, barbares, ennemis de l'intérieur.
On nous dit que le procès permet à la vérité d'éclater, aux victimes d'être réparées et aux auteurs de se réformer. Pourtant, cela fonctionne-t-il vraiment? Et surtout, au prix de quelles nouvelles violences et d'assignations sociales et raciales l'œuvre de justice se déploie-t-elle?
Cette semaine, à travers l'histoire d'un procès aux assises, on essaye de comprendre le fonctionnement de la justice. Face à la peine, c'est pendant une heure sur les ondes de Radio Canu.
C'est l'histoire de Jeanne, De jeunes hommes vivant dans des quartiers populaires de villes françaises. Ces quartiers que la République appelle aujourd'hui prioritaires.
Ces quartiers où ces jeunes hommes sont prioritairement contrôlés par la police, prioritairement déscolarisés par l'école, prioritairement enfermés par la justice.
Ça pourrait être l'histoire d'Enzo, que deux personnes d'un quartier ennemi tentent d'assassiner en lui tirant une balle dans la tête. Mais l'arme s'enraye deux fois de suite. Enzo finit par prendre une balle de fusil à pompe dans le mollet.
Ça pourrait être l'histoire de Mani tué d'une balle dans la tête, ou celle de Redouane tué à coups de couteau pour ne pas avoir serré la main correctement, ou de Wally lui aussi tué par un couteau pendant une bagarre entre bandes rivales, ou de Damien devenu paraplégique après avoir pris une balle dans la moelle épinière.
Mais ce soir, nous allons plutôt raconter l'histoire du frère de Sarah.
L'histoire du frère de Sarah devant la machine judiciaire du pays dans lequel il vit.
L'histoire d'une machine judiciaire qui écrase une existence déjà diminuée.
Le frère de Sarah a 18 ans quand cette histoire commence.
Il est sorti tôt de l'école et avec un ami, il travaille dans un quartier rival du sien. Cette rivalité de quartier est ancienne. Elle existait déjà quand les grands frères étaient petits.
Le frère de Sarah ne sait sans doute pas bien pourquoi ce quartier est le rival du sien. Mais quand il bosse dans ce quartier, tout est compliqué. Des jeunes de son âge qui l'ont reconnu l'humilient à plusieurs reprises. Agression physique, menaces, tout y passe. Plusieurs fois, beaucoup, trop.
Le frère de Sarah veut être respecté et pouvoir continuer à gagner sa vie en se rendant dans ce quartier.
Avec son ami, un jour, il retourne voir les ennemis qui l'emmerdent. Ils y retournent avec un pistolet. Ils veulent mettre un coup de pression, mais rien ne se passe comme prévu. Le coup part. Le jeune en face meurt.
Ce soir, c'est donc l'histoire du frère de Sarah, dont la vie bascule et qui se retrouve devant un tribunal des assises.
C'est quand même une cour d'assises, c'est lourd quoi, c'est lourd, c'est hyper impressionnant de se retrouver là. Ça fait aussi peur, on est tous et toutes tendus. Et moi ce que j'ai trouvé assez difficile, c'est aussi de se retrouver sur le banc des accusés quoi, quand même. Donc mon frère était accusé donc, de meurtre en bande organisée. Je pense une des épreuves les plus difficiles à vivre dans mon existence, quelque chose que je pense qui me traumatisera pour toujours. Alors moi je m'appelle Sarah, j'ai 42 ans, j'habite dans une grande ville, je suis travailleuse sociale. Et j'ai grandi dans un quartier d'une moyenne ville, un quartier assez éloigné quand même du centre. Alors à l'époque, on ne disait pas quartier populaire, on disait quartier, c'est pour ça que je dis quartier. Et voilà, je suis d'origine marocaine, mes parents sont nés au Maroc. C'est plutôt la famille de mon père qui est arrivée en France pour travailler, ensuite ma mère par mariage. Et on a assez vite grandi dans le quartier parce qu'en fait on n'a pas vraiment choisi quoi. On est envoyé en fonction du travail des parents. Enfin par exemple moi le quartier où j'ai grandi, on était tous et toutes du même bled, du pays d'origine. Voilà, et j'ai passé de mes 0 à mes 20 ans. Je peux témoigner en tant que membre de la famille d'une personne qui a été jugée dans ces deux procès, du coup en tant que sœur, et aussi témoin, parce que aussi dans le cadre de l'enquête, j'ai été aussi interrogée plusieurs fois par la juge d'instruction et par les enquêteurs. Du coup, j'étais impliquée en tant que membre de la famille, mais aussi en tant que témoin appelée à la barre. Donc mon frère, en gros, il était livreur et il y avait régulièrement des rixes et des bagarres quoi, entre, entre l'endroit où on a grandi et un autre quartier. Voilà, on va dire des histoires qui peuvent être assez classiques qu'on a pu déjà entendre ou lire ou voir dans d'autres récits. Et à l'issue d'une de ces bagarres, il y a eu une volonté quand même de se venger, et en tout cas de donner une leçon. Comme mon frère s'est dénoncé de lui-même, s'est rendu à la police, il n'y a pas eu d'arrestation spectaculaire avec des recherches partout, ce qui a aussi permis aussi de s'épargner, je pense quand même, cette partie-là. Et ensuite, c'est plutôt parti au départ de la police qui essayait de comprendre ce qui s'était passé et qui a d'abord plutôt convoqué des gens. Par exemple, nous, moi, des membres de ma famille, on a été plusieurs fois convoqués par la police. C'était plutôt des questions de l'ordre de sa personnalité, du fonctionnement familial. Comme si d'abord, il y avait toute une étape d'essayer aussi un peu de poser des billes et de comprendre un peu le schéma, le fonctionnement familial pour aussi après aller chercher les faiblesses. Je dis ça parce qu'en fait, après, plus tard, au moment des gardes à vue ou au moment même des questions pendant le procès, des choses que nous, on a pu dire, par exemple, de notre contexte familial, du divorce de mes parents, qu'on était issu d'une famille monoparentale, d'un quartier, de choses comme ça, en fait, comme si ensuite, après, c'était un peu utilisé contre nous pour faire un portrait aussi un peu de à quoi peut ressembler la famille de l'accusé, quoi. Et du coup, ça a été plutôt comme ça, des étapes, la première étape un peu comme ça, et ensuite, après, peut-être que quand ils ont commencé à se faire leur propre récit, ça s'est monté un peu en intensité. Alors moi, je me suis retrouvée en garde à vue avec écrit sur le tableau que j'étais complice d'un meurtre. Bon, voilà, moi, j'étais pas là, j'ai rien à voir dans cette histoire. Enfin, vraiment, donc déjà, j'ai pas compris, quoi, où je me dis, bon, attends, je suis en train d'halluciner sur ce qui se passe. Mais en plus, ils avaient déjà leur avis sur les choses, quoi. Et donc, ils avaient leurs questions. Il y a le bon flic, il y a le méchant flic, il y a le gentil qui te propose de boire un café, il y a le méchant qui t'engueule en disant, si tu veux pas te répondre, tu vas au placard. Il y a le gentil qui dit, peut-être tu vas sortir ce soir. Il y a le méchant qui dit, la juge d'instruction, de toute façon, elle va pas te lâcher parce que du coup, t'as rien dit. Et voilà, et en fait, du coup, on est là et on se dit, non, mais effectivement, c'est pas possible, en fait, je suis dans un film. Il y a eu une mise sur écoute qui a duré assez longtemps et aussi une surveillance, donc avec des photos et aussi des écoutes qui étaient assez conséquentes au final et qui ont duré assez longtemps. Moi, j'étais surprise qu'ils nous aient écoutés sur les portables, sur les téléphones fixes, pour aller chercher des informations et aussi chercher à définir des formes de relations, en tout cas, par exemple, des formes de relations familiales, pour ensuite aller les retourner contre nous, en disant, par exemple, vous êtes proches dans les discussions que vous avez au téléphone, donc forcément, je détenais des informations capitales, je savais des choses que je voulais pas leur dire, et que du coup, de fait, je mentais, et de fait, j'étais de toute façon peut-être sous influence. C'est plutôt traduit comme ça, quoi, par des écoutes, par de la surveillance, par des gardes à vue, par des interrogatoires, par aussi, aussi mon frère, lui, en détention, en étant quand même aussi déféré au parquet plusieurs fois pour aussi être interrogé par un juge d'instruction, avec une volonté quand même de nous faire parler sur des choses qui étaient « dites-nous qui est qui dans ces images ». Donc du coup, il y avait des photos de gens qu'on devait, sur lesquels, par exemple, moi, je devais dire qui était qui, mais qui avait n'avait en plus absolument rien à voir avec ce qui s'était passé, mais comme s'il fallait produire aussi de la matière policière pour... Alors, sur le coup, on se rendait pas vraiment compte de à quoi ça servait. Mais dans ce qu'on a vu se déployer dans les deux procès, bah ça nous a permis de nous rendre compte que finalement, c'était de la matière qui allait permettre de charger. Et du coup, de charger, de donner une certaine image des accusés, de donner une certaine image de leur famille, de donner une certaine image du quartier, pour mettre une peine la plus conséquente possible. On avait l'impression qu'il fallait que ça réponde à un récit déjà qui était déjà existant, même avant l'épreuve, quoi.
Entre le feu et la glace, il y a nous, nos parcours chaotiques et des asiles de fous, des mauvaises graines semées aux grandes dames de leurs écoles qui nous promettent sans vergogne un avenir décapité, poisse gaille charcutable. Taillable et malléable, et des flics alcooliques qui attendent que de se mettre à table. Des bâtards de cobayes, voilà ce qu'on a fait de notre sort. T'étonne pas qu'on s'en aille ailleurs écrire le carnet de bord. Acharnement judiciaire, contrôle musclé. Croire qu'on cherche à plaire serait la thèse la plus erronée. Au milieu de ça, rien, on observe de près, de loin. Les années qui s'écoulent à cogiter comme des chiens. Les techniques sont variées, certains ont la fibre de boucher. Et d'autres opèrent en chirurgien confirmé. Il s'agirait de terrorisme et de sabotage. D'extrémisme et de brigandage. T'inquiète, ils ont trouvé le moyen de te faire taire à coup de recommandés ou de spots publicitaires. Quelques âmes charitables dans le milieu de la police ne parviendront pas à faire peser le balancier hors du vice. Alors, tu veux que je te réponde quoi? Qu'accomplir son sale boulot relève encore du bon droit. Ferme-la, pas de théorie bien pensante. Je commence à comprendre les règles de ce jeu dont ils sont partie intégrante. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte. T'es déclaré, à force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée, à force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. L'extérieur est hostile, même entretenu par de valeureux paysagistes qui plantent des fleurs par-dessus. Le pouvoir de ce pays tient sur une grosse machine à laver. Les Émiratiens savent bien comme ces tortionnaires retraités. On tient à la baguette, un peuple heureux de travail. 4 générations de permis, c'est sans naturalisation. Des propagandes en liesse, couleur va fenaissesse. Non de cesse de confirmer, nous dire depuis tant d'années. Me parle de cohérence, s'il s'agit de marcher droit ou de faire allégeance à des couloirs bien trop étroits. Je sais d'où je viens, où je vais, c'est suffisant pour moi. Et j'ai de leçons à recevoir de personnes, dis-toi bien ça. La guerre est froide, voire de basse intensité. Qui souhaite nous prouver le contraire prépare ses arguments. Vu la pègre et les requins qui scrutent sur les bas-côtés, pas de raison pour nous de se comporter aimablement. Ils en prennent un pour l'exemple, une centaine de derrière. La dissuasion tient la rampe de l'autre côté de la barrière. C'est au pied du mur pour qu'on ait les vrais gueux. Pour le reste, c'est l'état que je mesurais le contenu du disque dur. Laisse derrière toi ceux qu'on décide de traîner pas dans des guerres intestines entre Coutando et Cuba. On n'a plus le temps pour ce genre de choses. Et pour les bâtons dans les roues, tu sais ce qu'on propose. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée, à force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent. Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée, à force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent. Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules.
Il est l'heure de redonner la parole à Sarah, qui raconte l'histoire de son jeune frère, qui a tué en voulant défendre son honneur quand il avait 18 ans. Qui a tué sans le vouloir dans un quartier voisin et ennemi. Le frère de Sarah, qui est maintenant devant ses juges.
La cour !
L'audience est ouverte.
Les assises, ça commence le lundi matin à 8h30, 9h. Les audiences, elles finissent très tard le soir, parfois 21h, 22h. C'est comme un, comme si on avait une espèce de nuage noir au-dessus de la tête qui est là. Et en fait, où c'est sombre à début de la semaine, à la fin de la semaine. En même temps, le temps passe très 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 doucement parce que la journée est très longue. Et en même temps, c'est... Je sais pas, et en même temps, ça passe vite parce que c'est des journées qui sont très longues où il y a énormément de choses qui s'enchaînent. J'ai témoigné peut-être le deuxième jour. Et quand on est appelé à témoin, ça dépend aussi de la catégorie. Il y a plusieurs catégories de témoins, mais en tout cas, moi, j'étais pas autorisée, par exemple, à assister à toute la première partie du procès tant que moi-même, j'avais pas témoigné. On est pendant des heures mis dans une pièce fermée à clé où on attend pendant plusieurs heures où on n'entend rien, on sait pas du tout ce qui se passe. On a juste des toilettes et un banc et on attend pendant des heures qu'on vienne vous chercher pour pouvoir témoigner, pour ne pas subir d'influence avant le témoignage. Donc du coup, c'est aussi des circonstances qui sont assez difficiles et assez traumatisantes déjà avant même de pouvoir d'arriver à la barre, de devoir avoir affaire au procureur, à des juges, à des jurés, à son frère, à un public, et aussi d'être de se faire agresser par tout un tas de questions.
Nous allons poursuivre avec l'audition des témoins. Monsieur l'huissier, je vous demanderai de faire venir à la barre le premier témoin.
Quand moi j'ai été appelée à la barre, je suis restée une heure et demie à la barre à témoigner. Et je me suis fait cuisiner pendant une heure et demie par le procureur, quoi. Et qui a essayé de me déstabiliser, de m'affaiblir, de me faire passer pour... Il a testé toutes les stratégies pour me rendre vulnérable, un peu dans la même lignée que peut faire la police, par exemple, dans ses interrogatoires. De décrédibiliser ce que j'avais à dire, de dire de toute façon que moi, j'étais pas... que je pouvais pas être... que j'étais influencée par mon frère, que, en fait, je me faisais passer pour quelqu'un de respectable alors que je l'étais pas. Je me suis fait vraiment cuisiner, mais d'une telle manière, quoi, comme si... Là, pour le coup, ça a été compliqué avec le procureur, parce que ça m'a fait aussi revivre un peu les interrogatoires de la police, quoi. Vraiment, je me suis dit, c'est la même... c'est la même stratégie, c'est la même famille, c'est vraiment les mêmes manières de faire, avec la même violence psychologique. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, il y a un public, quoi. Il y a un public, il y a un président, il y a des jurés, il y a... Donc, et puis il faut tenir droite, quoi, à la barre. Moi, je voulais pouvoir dire ce que j'avais à dire. Je voulais aussi dénoncer ce que moi j'avais vécu en garde à vue. Donc j'ai aussi moi essayé de dire des choses aussi pour aussi donner un contre-discours, quoi, aussi, et pas juste moi me faire décrédibiliser à tout bouchon ou à chaque phrase que je pouvais dire. Mais ça a été vraiment très très dur, très très dur, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir été cuisinée. Et d'ailleurs, quand j'ai terminé mon témoignage, où je tremblais et que je m'accrochais à la barre et j'ai essayé de rester droite, de rester claire dans mes propos et de vraiment pas craquer et tout ça. Et je suis sortie ensuite de la cour, la tête baissée. J'ai poussé la porte et à peine sortie, j'ai poussé un cri et un hurlement. Je sais pas si les gens m'ont entendu, mais en tout cas, j'ai hurlé dans le couloir de colère, de rage, pour faire aussi sortir tout ce que j'avais encaissé pendant 7h30. Ils ont une grande place dans le procès, hein, notamment le chef de la SRPJ, la section régionale de la police judiciaire, qui vient et qui parle et qui parle et qui parle et qui déballe beaucoup, beaucoup de choses, qui parle de mon frère comme si c'était un grand criminel. Et puis chacun y va de son expertise psy. Donc là, il déroule, il parle de la famille, ils font des analyses, ils racontent tout un tas de trucs. On assiste comme ça aussi à un déroulement d'éléments de personnalité, d'éléments à charge, de faits, de petits trucs aussi sur sa vie qui sont complètement détournés. Par exemple, voilà, son parcours scolaire. Alors oui, il avait 18 ans, hein, donc il n'a pas eu le temps de faire ses preuves à l'école. Après, il n'était pas... Il se débrouillait à l'école, mais il a été comme beaucoup de jeunes garçons des quartiers orientés quand même sur un bac pro. Voilà, filière, comment on peut dire, presque classique, hein, déjà autodéterminée quand on est enfant. Donc voilà aussi de dire ben qu'il était en bac pro, filière professionnelle, et on sait très bien de ce qui se passe que les jeunes qui sont en bac pro, ils en ont rien à foutre de l'école, et que malgré le fait que quand même sa proviseure était sur place pour dire que c'était un bon élève et que c'était quelqu'un qui avait envie de suivre en classe, et ben c'était quand même aussi détourné de manière à dire que c'était ben voilà, que les gens qui finissent en bac pro, on sait très bien de façon que c'est des délinquants en puissance, quoi.
Monsieur le procureur.
Le réquisitoire du procureur, mais j'avais l'impression qu'il parlait de quelqu'un d'un cartel colombien, de... C'est pas... Il est allé très très loin dans son réquisitoire. Mais vraiment, il a dépeint les quartiers comme des zones dangereuses, où régnait la loi du plus fort, où en fait, c'est que de la violence, et qu'en fait, c'était eux-mêmes des éléments violents, qu'il fallait les écarter de la société... Je l'écoutais parler, je me disais, mais il est à côté de la plaque, quoi. Mais c'était son rôle, il était là pour ça.
Les représentants de l'État, procureur en tête, défendent notre droit à la sécurité. En criminalisant les RICS, ils s'approprient ces drames pour en donner leur lecture, leur version, leur cadrage. Ils affirment que c'est la violence des habitants de ces quartiers perdus de la République qui conduit à ces drames. Cette violence proviendrait des qualités intrinsèques des personnes, de leur volonté individuelle de se mettre aux marges du système et de s'affirmer par la violence. Ces gens-là seraient irrécupérables, il faut donc les mettre à l'écart. Comprendre, c'est excuser. Excuser, c'est ne pas agir. Or, l'État doit agir. Il faut défendre la société. On peut donc choisir de criminaliser les personnes participant aux RICS. C'est ce que les gouvernants et les magistrats font avec zèle depuis 30 ans. On peut aussi décider d'agir sur les conditions de possibilité de ces drames, qu'elles soient sociales et spatiales. La punition d'une personne n'agit pas sur les structures et les mécanismes sociaux qui conduisent aux violences. Au contraire, tout en invisibilisant les problématiques sociales, et donc en permettant qu'elles persistent, la peine amplifie le cycle de la violence. Et pour les familles endeuillées, l'appareil judiciaire offre une vengeance légale, collective et institutionnelle. Il prétend répondre à une demande sociale et apaiser les douleurs. Mais en quoi et qu'est-ce que cela répare? Comment soutenir la soif de justice? En répondant de manière aveugle aux réalités sociales ou en s'autorisant à comprendre les logiques à l'œuvre?
Ouais, enfin, tu dis ça, mais après, je trouve que c'est normal que le proc il relaie les paniques morales. Comme dit Sarah, c'est son rôle.
Ouais, ouais, ouais. Même qu'ils reprennent les mots et les techniques policières, pareil, c'est son taf. Ils sont collègues, ils ont des manières de faire qui sont proches, en fait.
Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. En plus, ils sont au téléphone toute la journée ensemble. Enfin, forcément, ça crée une grande confiance, quoi, entre elles. Oui,
forcément.
D'ailleurs, ça permet aussi de comprendre pourquoi les uns couvrent les autres tout le temps, quoi.
Bon, et puis, si ça, c'est normal... En même temps, ça n'empêche pas que pendant un procès, il y a, comment on pourrait dire, il y a d'autres récits que celui des enquêteurs. Mmh. On dit souvent que c'est une arène, un procès. Il y a des histoires concurrentes qui s'affrontent. Il y a le juge qui lit le dossier, les experts, les témoins, les victimes, le ou la proc, l'accusé, son avocat ou avocate.
Ouais, le spectacle, quoi.
Ouais, mais d'ailleurs, en théorie, c'est la confrontation entre toutes les vérités qui doit permettre qu'émerge la vérité judiciaire.
En théorie.
Ouais. Ah, théorie. Bah, on le voit dans les films. 12 hommes en colère, Anatomie d'une chute, L'Hermine, le dernier film d'Eastwood là.
Juré numéro combien?
Bah je 2, sais plus, 13.
12, 2, ouais.
C'est sur cette base que les jurés vont décider de la culpabilité et de la peine.
Donc même si proc et policier ont le même discours, il y en a d'autres qui sont possibles. Bah, des discours. Enfin je crois, non?
Ouais. Et même pour les personnes victimes. C'est important d'entendre la version que la personne accusée a de l'affaire. C'est censé aider à se reconstruire, d'avoir une vision un peu plus claire sur ce qui s'est passé, etc.
Ouais, mais ça t'y croit? Enfin, je sais pas, si toi tu risques une grosse peine, genre des années de tôle, tu penses que t'as pas plutôt intérêt à, je sais pas, à mentir ou à arranger un peu la réalité?
Ouais, sans doute que je minimiserai un peu, ouais, c'est clair.
Mais du coup, ça aide pas vraiment les personnes victimes d'avoir la version de la personne accusée.
C'est sûr que si elle ment, ouais, je pense pas trop, ouais.
Bon, en tout cas, qui ment ou qui dise réellement ce qui s'est passé, c'est à l'accusé de choisir. Mais au moins, il a la parole.
Le fameux droit à la défense.
Ouais. Enfin, ouais. Ça marche que quand l'accusé il s'appelle Sarkozy ou Le Pen.
Tu veux dire quoi par là?
Bah, le frère de Sarah, lui, il n'y a pas eu le droit au droit de la défense.
Bah, pour le coup, il est racisé et il vient d'un quartier populaire. C'est sûr que ça change la donne.
On n'a pas l'impression qu'on a droit à la défense, quoi. Le droit à la défense était presque inexistant. On leur a laissé très peu de possibilités de s'exprimer. À chaque fois que lui, il a essayé de le faire, comme s'il était décrédibilisé dès le départ, quoi. Où il y avait des signes, il y avait des petits mots, des petits gestes ou des regards qui tout de suite décrédibilisaient un peu sa parole. Et après, alors ça, c'était en première instance, c'était peut-être moins flagrant, c'était plus subtil. Alors en deuxième instance, c'était complètement affiché. Hein. Pas longtemps avant la convocation à la cour d'appel, donc moi j'ai su que j'étais encore donc forcément convoquée comme témoin. Donc bon, je savais qu'aussi, encore une fois, j'allais pas pouvoir être présente au tout début du procès. Et là, l'avocate nous dit, c'est horrible, le président de la cour d'appel, on va tomber sur le pire. Très vite, ce président-là a dévoilé sa facette raciste. Il avait que des préjugés, que des stéréotypes, et puis que dans le dénigrement. Enfin, je sais pas comment dire, mais comme si nous, on était là, et qu'en fait, lui, il était là, au-dessus de nous, à nous dire, vous me faites chier, quoi, aussi. Vous me faites chier avec vos histoires, vous me faites chier avec vos histoires de quartier, vous me faites chier avec vos embrouilles. J'en ai rien à foutre. Dès que les deux accusés essayaient de dire quelque chose, il les laissait même pas terminer. Et puis, il les coupait en disant oui, vous êtes pas les seuls à dire ça, on connaît l'histoire, et oui, et vous êtes gentils, et vous êtes comme ci, et vous êtes comme ça, oui, on vous connaît, vous, dans les quartiers, non, vous êtes pas des méchants. Vous êtes... Et puis, il avait comme ça, tout le long du procès, sans que personne l'arrête, sans que personne lui dise que c'était pas possible de parler comme ça. Il était très très agressif. J'en ai moi-même fait les frais quand je suis arrivée à la barre. Comme en première instance, hein, j'ai eu tout un tas de questions. Mais parce que vous croyez que parce que vous êtes travailleur social, vous êtes quelqu'un de respectable, vous défendez l'indéfendable. Il était comme ça, plein de jugements, surtout très très violent, très agressif. Puis les personnes qui venaient témoigner, qui étaient par exemple des membres de ma famille ou des membres de mon quartier, qui étaient des Arabes, ils avaient aussi le droit au même dénigrement, au même « vous savez pas vous exprimer, on comprend rien à ce que vous dites, parlez en français parce que les mots étaient pas très bien employés ». Donc là, on a assisté à une espèce de pièce de théâtre complètement hallucinante. Et on s'est dit, du coup, lui, il va décider de la pluie du beau temps, il va décider de notre avenir, et on va pas pouvoir dire grand-chose, quoi. Ça nous a fait péter un câble de se sentir dénigré de cette façon, et aussi de se dire, mais en fait, on n'a pas le droit de se défendre. On vient de payer une avocate 40 000 euros. On peut pas se défendre. On a des choses à dire. On a ramené des témoins. On a des, Et puis c'est notre droit, quoi. Normalement, on doit pouvoir le défendre. Et en fait, c'était pas possible, vraiment. Et les témoins qui étaient appelés à la barre, qui étaient plutôt des témoins de la défense, sortaient complètement choqués. Aussi, tout le monde était choqué en sortant, en disant « Mais c'est pas possible, quoi. C'est quoi ce procès ? C'est quoi ? Comment c'est possible, en fait, que lui puisse dire des choses pareilles, que ce soit accepté, que, en fait, personne puisse lui rabattre son caquet ?» C'était révoltant.
Quand ils m'ont jugé, je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient de moi. Quand ils m'ont jugé, je ne comprenais pas ce que je faisais là. Y'avait un homme en rouge qui s'acharnait sur moi, précis comme la poudre et lourd comme la loi. Je ne savais pas que j'étais si violent, que j'étais si violent. Je ne savais pas que j'étais si méchant, que j'étais si méchant. Ouais, mais pour ma défense, un autre a palabré, faisant voler ses manches au vent de ses idées. Je ne savais pas que j'étais si petit, que j'étais si petit. Je ne savais pas que j'étais si gentil, que j'étais si gentil. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, mais j'ai peur tout seul devant tous ces gens de bien qui étalent au grand jour les secrets de mon cœur et n'y comprennent rien. Messieurs les jurés, ne me jugez pas trop, ne me jugez pas trop. Ah, messieurs les jurés, mettez-vous dans ma peau, mettez-vous dans ma peau. Regardez dans la glace vos têtes d'hommes forts, vous verrez les grimaces des condamnés à mort. Quand ils sont rentrés, ils ont baissé les yeux, ils ont baissé les yeux. Ils avaient jugé un enfant du bon Dieu, un enfant du bon Dieu.
Il a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle en première instance, en deuxième instance. Quand on a 18 ans, ben c'est... Ouais, je me suis dit quand même... S'il y avait eu une volonté, un tant soit peu humaine, éducative, ben, elle n'aurait pas condamné mon frère à 18 ans de réclusion criminelle. Elle aurait donné un petit espoir. Le verdict, c'est à la fin du procès, on rentre chez nous, on revient, on est revenu, je ne sais pas, peut-être à 2h du matin, je ne sais plus, quelque chose comme ça, quoi, et en pleine nuit. Je ne m'étais pas imaginé que ce soit une peine aussi conséquente. Ben, je ne m'étais pas imaginé que ce soit possible. On a vu que, en fait, ben, ça ne servait à rien d'être gentil. En fait, on a été gentil, on a essayé de montrer qu'on était gentil. Et en fait, c'était la même chose que si on s'était pointé au tribunal en ayant notre attitude, bon, ça n'aurait rien changé, quoi. Ça a été un énorme traumatisme parce que projeter à 18 ans d'incarcération, c'est enterrer quelqu'un. Ça a provoqué après chez moi un sentiment de colère énorme. Déjà pour nous, de vivre avec ce qui s'était passé, c'était déjà horrible, c'était déjà dur, c'est déjà vivre la détention quand on est de la famille, ça bouleverse toute la vie, c'est hyper dur. En plus, là, on avait l'impression que ça faisait double peine, quoi. Enfin, vraiment, il nous enterrait tous. Il nous enterrait, nous avec lui, quoi. Vraiment, ma mère, elle n'a pas supporté, elle a pleuré, elle a hurlé, elle est tombée dans les pommes dans la salle, on a appelé les pompiers. Enfin, ça a été un choc énorme et une colère énorme de voir à quel point il avait été puni, quoi. Comme si, comme si on ne pouvait pas voir aussi que derrière ça, il y avait, je sais pas, un être humain qui vit, qui respire, qui est jeune, qui était aussi au début de sa vie. À l'époque, c'était ça aussi qui nous animait, aussi un énorme sentiment d'injustice. D'avoir été traités comme des merdes par la justice, quoi. Vraiment, on n'était rien, on était des moins que rien. En plus, ça nous a... Déjà, on se sentait pas très important. dans la vie, dans la société, au regard de où on vivait, de qui on était dans la vie, quoi. Mais en plus, là, ça venait souligner, en plus, aussi notre, je sais pas, notre importance, qui on était, qui on représentait. De toute façon, on pouvait bien nous enterrer, tant mieux, quoi. Je veux dire, et si on pouvait même enterrer comme ça tous les gamins des quartiers, tant mieux. Moi, j'ai eu l'impression que c'était un peu comme donner l'exemple. C'était que j'ai l'impression qu'il fallait qu'ils punissent pour donner l'exemple et puis pour dire... Bah voilà en fait ce qui se passe dans les quartiers quoi. Voilà des gamins qui font des expéditions punitives et du coup qui en ont rien à foutre, qui sont des gens violents. Donc on va les punir très fortement aussi pour donner l'exemple un peu comme si je sais pas comme si ça allait servir d'exemple à d'autres jeunes à vous dire bah en gros on peut pas laisser passer ça quoi. C'était pas un, c'est même pas genre un fait social de en essayant de d'expliquer ou de donner des éléments de comment on en arrive là. C'était pas ça la question. La question c'était de dire ben on va les punir, on va pas leur donner de chance de s'en sortir et en plus on va donner l'exemple. Une volonté de les mettre au cachot le plus longtemps possible, quoi, tous les nuisibles, et qu'ils soient pas, qu'ils traînent pas dans les rues, qu'ils soient pas dehors, qu'on n'ait pas affaire à eux, quoi. En plus, nous, en tant que famille, ben, on est responsables, parce qu'on sait pas, parce que les parents, ils savent pas éduquer leurs enfants, parce qu'ils s'en occupent pas, parce qu'ils sont nuls, parce qu'ils les aident pas à l'école, parce qu'ils sont comme ci, parce qu'ils sont comme ça. Et du coup, c'est aussi comme ça que se sont sentis mes parents, nos parents, quoi. Aussi, d'être des gens qui sont faibles, qui savent pas éduquer leurs enfants, qui sont et ça a été une très grande culpabilité aussi pour eux. Hein. Je pense qu'ils ont pas le même discours et le même recul que moi, mais ça a été aussi très compliqué de se confronter à ça aussi, de se confronter à un discours de qu'on est des parents qui ont pas su éduquer, élever leurs enfants. Comme si la société, elle n'était pas responsable. À l'époque, j'y croyais un petit peu, mais je pense que j'avais besoin d'y croire aussi parce que j'avais besoin de penser que quand même dans cette histoire on n'allait pas juste être des moins que rien quoi. Enfin je sais pas, j'avais besoin aussi quand même de penser que il pouvait y avoir un tout petit peu d'humanité là-dedans. De vivre les choses comme ça, avec une telle injustice, ça a été horrible. Et moi, ça a terminé tout ce que je pensais d'une justice qui, avec un droit à la défense. Je pense que déjà, j'en avais pas une opinion très très positive, quoi, parce que encore une fois, j'avais vu aussi beaucoup de personnes de mon quartier se faire condamner. Pour des broutilles, pour aller en prison, faire des allers-retours, pour rien, hein, pour pas de permis, non présentation des papiers, paraître de shit dans la poche. Après, avec du recul, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est juste une machine à condamner les gens que le système a pensé qu'il était normal de condamner, quoi, et de mettre en dehors de la société. Et que c'est vraiment une machine à mettre derrière les barreaux ben, des pauvres, des personnes noires, arabes, issues des minorités, issues d'immigration. En plus, quand on va en prison, quand on va au parloir, on le voit, c'est flagrant. Ça a été une grosse, grosse claque aussi, vraiment, de se sentir du côté des minorités, quoi, vraiment, et de le conscientiser comme ça, de cette manière aussi forte, aussi claire. Et que, je sais pas, d'un coup, là, ça faisait pas de doute, quoi. Sur nous qui on était dans cette société, qui on sera toujours, et qu'en fait on n'a rien à dire là-dedans, quoi. Ils ont quand même gagné aussi là-dessus, quoi. Comme si aussi même la prison, elle avait un vrai rôle de prendre conscience de ce qui s'était passé, que en fait la punition, elle était importante et qu'il fallait l'accepter. Bah oui, il faut l'accepter parce qu'il faut les tenir les années de détention. Mais en même temps, comme s'il fallait aussi l'accepter symboliquement parce que on l'a mérité, parce que c'est normal. Et en fait, c'est dur aussi de dire bah non, en fait, c'est pas normal. Bah non, c'est pas normal que ça ait été autant d'années de prison. Et en fait, est-ce que ça sert vraiment ? Est-ce que ça sert à quelque chose aussi de mettre de la prison et en fait et ben le travail qui fait que ben en fait les gens sont pas brisés par ça c'est nous qui l'avons fait, personne proche, la famille, les amis, les proches, c'est nous qui avons fait le travail que ne sortent pas de prison des personnes qui sont complètement brisées, mais les institutions, personne a rien fait là-dedans, quoi.
La cour et le jury vous condamnent à 18 ans de réclusion criminelle. Ce qui signifie...
Vous êtes condamné à vous mettre à nu aussi souvent qu'on le jugera nécessaire, pour être fouillé à coups, à corps, à montrer votre anus aux surveillants chaque fois qu'ils l'exigeront dans le cadre de leurs fonctions.
Vous êtes condamné à vous soumettre nuit et jour à leur volonté. Vous obéirez à tous les ordres, même à ceux qui vous sembleront ineptes ou uniquement mortifiants.
Vous êtes condamné à demander la permission pour tout.
Vous êtes condamné à vous tourmenter incessamment pour vos proches, sachant que vous n'apprendrez jamais que ce qu'on voudra bien vous dire.
Vous êtes condamné à être dépouillé de tout ce que vous possédiez, à n'avoir que de rares objets personnels qu'on peut vous retirer à tout moment.
Vous êtes condamné à ne plus disposer de votre temps, de votre avenir, de vos projets.
Vous êtes condamné à ne manger qu'une nourriture autorisée. Une fois par an à Noël, sous certaines conditions, si vous avez de la famille, vous aurez le droit de faire entrer des denrées de l'extérieur.
Vous êtes condamné à tout attendre, le courrier, les visites qui se feront de plus en plus rares, l'audience demandée au directeur, la consultation à l'infirmerie, le transfert de la centrale au centre de détention, le jour lointain de la fin de la peine où vous pourrez espérer une permission, l'aléatoire libération conditionnelle, la sortie. Cette vie d'attente vous rongera.
Vous êtes condamné à ne plus faire l'amour, à être séparé de l'être que vous aimiez.
Vous êtes condamné à vivre votre jeunesse dans la hargne, au milieu d'individus désespérés, irascibles, déséquilibrés, qui n'ont goût à rien et vous décourageront avec obstination d'entreprendre quoi que ce soit.
Vous êtes condamné à vivre votre désastre sans la consolation de personne. Si vous sombrez dans la dépression, vous serez condamné à prendre des cachets jusqu'à qu'on se n'obtienne de vous l'abrutissement voulu.
Vous êtes condamné à ne pas voir grandir vos enfants, à être déchu de vos droits parentaux.
Vous êtes condamné à être coupé de la nature. Votre ciel sera tendu de gros filins contre les rêves d'évasion par hélicoptère.
Vous êtes condamné à vivre sans surprise ni beauté, une vie rigoureuse, monotone. Vous êtes condamné à l'insignifiance de chacun de vos jours.
Vous êtes condamné à ne pas revoir votre père ou votre mère à ses derniers instants.
Vous êtes condamné à avoir peur de tout et de tous, des surveillants violents ou alcooliques, des co-détenus pervers ou devenus forcenés.
Voilà, c'est la fin de cette émission de L'Envolée sur FPP 106.3 FM en région parisienne. Là, on vient d'écouter, comme je disais, on a piqué une émission de Mayday qui s'appelle Face à la peine, qu'on a trouvé très intéressante. Et donc, les émissions de Mayday, vous pouvez les retrouver sur un audioblog d'Arte. Vous tapez Mayday, M-A-Y-D-A-I, et vous retrouvez toutes leurs émissions. Il y a pas mal d'émissions vraiment très intéressantes et on les remercie. Et pour finir cette émission, je vais vous rappeler tous les contacts. Donc je vous rappelle que le journal L'Envolée, c'est 15 euros d'abonnement en soutien, c'est 2 euros si vous le trouvez en librairie. Et vous pouvez taper sur le site internet pour chercher où vous pouvez trouver le journal L'Envolée dans votre ville ou dans votre bled. Et surtout, c'est gratuit pour les prisonniers et prisonnières. Donc, si vous voulez nous écrire pour parler de votre détention, de ce que vous vivez, critiquer ce que vous vivez, échanger avec nous ou être abonné à l'envolée ou tous en même temps, vous pouvez écrire à l'envolée.e-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Vous pouvez aussi nous contacter par email contact@l'envolée.net. Vous pouvez aussi consulter notre site internet l'envolée.net. Vous pouvez nous contacter sur un portable, répondeur, texto et signal quand ça marche, 07 53 10 31 95, et vous pouvez nous retrouver sur Instagram, l'envolée journal. Voilà, donc n'hésitez pas à échanger avec nous, nous dire ce que vous pensez de nos émissions, de notre journal, de ce que vous subissez, de ce que vous vivez, de vos luttes, etc. Et j'en profite pour finir cette émission avec un grand coucou, salut, plein de force, courage et détermination à tous nos amis et nos proches incarcérés, à tous les prisonniers et toutes les prisonnières, une grosse pensée pour tous les proches de prisonniers, surtout toutes les proches, il faut bien l'avouer. Donc une grosse pensée à tout le monde, force, courage et détermination. Et comme toujours, il n'y a pas d'arrangement. À bientôt.
Ouais, bon, j'habite de l'autre côté de la rue.
Ouais, bon. Un cauchemar pour commissaire.
J'habite de l'autre côté de la rue.
Mecs de ma génération vont ainsi. Pour Clancy, un classique.
J'habite de l'autre côté.
Sur un starting block, de la naissance on dope. Avec la merde on pote, mon pote. Ça arrive dans tous les sens, personne t'entend. Quand tu cries à l'aide, quand on te balafre comme un zèbre. Et que t'es bruyant comme un YZ. Chaque immeuble est comparable à une zone sismique. L'eau, l'une micro-entreprise ou le futur licencié speak. Les murs de ma rue me parlent comme à tous ces types. Du jeu de frappe ou de la braque, spécialiste ou fanatique. Véhicule calciné comme monument. Des plats cuisinés par les mamans nous montrent à quel point le pays nous manque. On rampe comme des militaires. On se perd tout comme au stock car on se lit, on s'humilie, on se rotka. J'habite de l'autre côté de la rue.
Où ça?
Un cauchemar pour le commissaire Broussard. Du mauvais côté du périph', loin des contes féeriques. Confronté au périph', le moral pollué, toxique. Comme l'herbe, tard le soir au compte du troisième type. Face au contrôle de police, on met nos crues en pratique. On n'est pas des chiens, tous dominants, tous patrons. Tout en ruminant dans nos gueules, je veux toucher le plafond. La rage c'est pas un truc qu'on recycle. Au-delà du rap et tout ce que je te récite, ça revient à chaque cycle, c'est speed. La violence n'a pas pris une ride, entre crapules ça se liquide. Avec une trêve à la
hire. J'habite de l'autre côté de la rue.
Où ça? À gauche, marron. J'habite de l'autre côté de la rue, un polar, hommage aux disparus. Et au courage qui trime à l'usine, alors on le pierce manigance. Aucun salaire fixe, rien à déclarer au fisc, le peu de fric. C'est pour l'hôtel où se déroulent des films X fixés. Au poste, pression caniculaire, un mélange voyou populaire, des mots oculaires, et père en colère. On gamberge vite comme un avion furtif, c'est la rillette ou le vice. Surveille nos actions et le cours du cannabis. La Havana ou Pattaya comme péché mignon. Enken pour madame qui connaît pas le ton Pérignon. Les coffres sautent, mec en planque ou en fuite. Fils de coco de plante.
Les bateaux rasent de plomb.
Une rodka on te plante, y'a qu'une saison.
Les plans en solo à 30.
La batte tourne comme un sample. Et moi, je chante. Car d'autres sont un casse. Les plus effrontés en cage. Oublie ceux qui t'enfoncent, pense à ceux qui t'encouragent. Du lundi au dimanche, folie comme divertissement. On rit au nez des avertissements et des jugements. Et quand les voisins sourient pas, ils parlent pas, m'en parlent pas. Le gros il connaît pas, il renseigne pas. Vu nos différences raciales dans tout ça, on tient le coup. Et si un jour la chance se présente, on tente tout.
J'habite de l'autre côté de la rue. Les mecs de ma génération vont ainsi. Faut qu'un signe classique. Après, j'habite de l'autre côté de la rue.
Où ça? À gauche, par le commissaire. Où ça? Du mauvais côté du pays.
J'habite de l'autre côté de la rue.
Les mecs de ma génération vont ainsi. Faut qu'un signe classique. Après,
j'habite de l'autre côté de la rue.
Où ça? À gauche, par le commissaire. Où ça? Du mauvais côté du pays.
J'habite de l'autre côté de la rue.
Les mecs de ma génération vont ainsi. Faut qu'un signe classique. Après,
j'habite de l'autre côté de la rue.
I'm from the other side of town.